quand on découvre, par exemple, une pistache iranienne, déjà, quand on va croquer, il y a une texture très particulière qui est à la fois légèrement croquante, mais avec tout de suite quelque chose d'assez rond, un petit peu gras. Et vraiment, le premier goût qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose de vif et très végétal.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. C'est sûrement un vestige de l'enfance, mais spontanément, la vanille, la fraise et le chocolat sont pour moi des produits qui ont une identité très ronde, comme s'ils tombaient du ciel, tel quel. Je me dis sûrement ça parce qu'ils ont pour point commun d'être des parfums classiques de glace, et qu'un cornet, une boule face à la mer, ça a toujours le même goût lorsqu'on est petit. La pistache entre facilement dans la même catégorie. Et pourtant, typiquement, il y a bien d'autres choses à dire lorsqu'on tire le fil de la pistache. Ces petits fruits à coque sont bien plus qu'un encas servi à l'apéro. Dans les cuisines méditerranéennes et orientales, on les retrouve dans les farces salées, les plats à base de viande hachée, mais aussi les préparations sucrées comme les tartes ou les confiseries. La pistache, c'est aussi la petite touche de vert dans une fine tranche de mortadelle italienne. Ou encore les débris verts et mauves qui surplombent une part de halva grecque, composée de tahini et de mélasse. La pistache, c'est celle de Bronte, en Sicile, absolument délicieuse avec des pâtes, de la pancetta, de la ricotta sèche et un filet d'huile d'olive. Mais c'est aussi celle d'Iran, que l'on surnomme également amande verte. Il y a quelque chose qui se mérite avec les pistaches. Déjà parce que, pour y avoir le droit, il faut exercer un précieux geste avec ses deux pouces en même temps afin de la déloger de sa coque. Ensuite parce que, historiquement, la pistache est un produit d'exception. On raconte qu'il y a 3000 ans, la reine de Saba en avait fait un mets royal en décrétant l'interdiction pour le peuple d'en cultiver pour son usage personnel. Dans cet épisode, je m'entoure de l'autrice culinaire Sonia Esgulian, dont l'ouvrage « La pistache, 10 façons de la préparer » est sorti aux éditions de l'Épure. Ensemble, nous allons revenir sur l'histoire de la pistache, qui a voyagé à travers le monde au fil des conquêtes et des découvertes, partant ainsi du Moyen-Orient pour se retrouver en Espagne, en Italie et même en Californie. Si vous aimez les pistaches, n'hésitez pas à attraper un bloc-notes dès maintenant, puisque, comme vous l'entendrez, cet entretien est émaillé de petites recettes. Sonia Esgulian commence par nous parler d'un dessert très important dans sa vie, parce qu'il était préparé avec amour et passion par sa grand-mère arménienne.
Alors, le plus lointain souvenir que j'ai avec la pistache, et puis le plus fort, en fait, c'est un dessert que faisait ma grand-mère arménienne, une seule fois par an, parce que la pistache était quand même un produit cher et réservé à des fêtes importantes. Alors soit c'était pour Noël, soit on dégustait ce dessert pour le début de l'année. En fait, c'est un dessert qui est un lointain cousin du baklawa, qui s'appelle boujma en arménien. Pour vous expliquer la forme, ce sont des feuilles de pâte filo que l'on va napper de beurre fondu. On va déposer une farce à base de noix et de poudre de cannelle mélangée donc aux noix. On va rouler tout ça pour faire une sorte de tube qu'on va froisser et on va mettre ces rouleaux dans un grand plat rond, et on va faire une sorte de serpentin. Et ensuite, ce serpentin, on va découper des petits morceaux, le mettre à cuire au four et l'arroser au sortir du four avec un sirop de sucre, et ensuite le recouvrir très généreusement d'éclats de pistache. Et pour moi, ce dessert, alors déjà, tout le rituel de dessert, j'adore les gestes de ce dessert, les bruits aussi, les sons de ce dessert, quand ce dessert sort du four et qu'on verse le sirop, il y a une sorte de craquement, c'est terrible, c'est vraiment, ça titille la gourmandise, c'est quelque chose de fabuleux. Et ensuite, ces éclats de pistache qu'on met sur ce dessert, ça devient une parure en fait, un vrai bijou. Il faut attendre que ce dessert est refroidi pour le déguster. Et pour moi, c'est vraiment le grand summum de la gourmandise. Ça fait appel à tous les sens. Louis est très sollicité, les papilles aussi. Là, vous voyez, je vous en parle, j'ai déjà les papilles qui sont émoustillées. C'est vraiment un dessert qui symbolise la gourmandise et ça représente aussi tellement de choses de mes origines et puis de la façon dont j'ai appris à cuisiner que voilà, ces pistaches de ce dessert sont vraiment ce symbole de gourmandise très particulier.
Vous en parlez avec beaucoup de générosité, moi aussi j'ai salivé. Est-ce que c'est une recette que vous faites parfois chez vous aussi ?
Alors tout le temps, c'est drôle parce que pendant très longtemps j'ai réservé ce dessert à des repas d'amis et puis aux repas familiaux. Et puis il y a quelques temps, j'ai un jour en discutant avec une copine qui a ouvert un concept store à Lyon qui s'appelle Tandem et il y a une petite partie coffee shop avec des gourmandises et elle me disait mais tu sais je crois que les gens seraient terriblement contents si tu préparais ce dessert une fois par semaine pour notre coffee shop. Alors je voyais pas tellement comment ce dessert allait vivre dans un coffee shop coupé en petits morceaux, parce que pour moi c'était un dessert qu'on apporte sur une grande table de partage. En général on est 8, 10, 12, bon, aujourd'hui on l'est pas trop parce qu'avec le Covid c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment un dessert qu'on partage et chacun commence à prendre un petit morceau, puis un deuxième, éventuellement un troisième. Et bien, ça va faire un mois que je me suis lancée dans cette aventure et du coup, je partage ce dessert régulièrement avec des gens que je ne connais pas mais qui m'écrivent sur les réseaux sociaux en me disant « Mon Dieu, on a enfin compris, on a dégusté votre dessert, qu'est-ce que c'est bon, on espère qu'il y en aura la semaine prochaine, etc. » Donc, c'est assez nouveau. Je propose ce dessert depuis quelques temps pour l'espace coffee shop de la boutique Tandem.
Merveilleux, donc ça doit être une façon pour beaucoup de personnes de découvrir l'utilisation de pistaches dans des desserts, puisque j'ai l'impression, vous pouvez m'arrêter si je me trompe, mais qu'ici en France on associe beaucoup plus la pistache à ce fruit sec qu'on va connaître plutôt à l'apéro, dans une petite coupelle ou au milieu d'autres choses salées à picorer. Alors que, en fait, on peut la trouver aussi sous forme de pâte, la pâte à pistache qui peut parfumer les pâtisseries. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes formes sous lesquelles on peut trouver la pistache ?
Alors, pour la petite histoire, je mange très peu de pistaches qu'on décortique à l'apéritif, parce que souvent, soit elles sont un peu trop salées à mon goût. Alors, il y a quelques endroits où j'adore déguster des pistaches. C'est par exemple la Pistacherie, parce qu'ils proposent des pistaches. C'est à Paris, hein. C'est une boutique qui propose des assortiments de pistaches à déguster, comme ça, par exemple, juste avec des petits zestes d'orange et très, très peu de sel. Donc ça, j'aime bien. Mais en général, effectivement, les gens connaissent peu la pistache. D'ailleurs, souvent, on ne reconnaît pas vraiment les différentes pistaches qui existent sur le marché. La plus connue, à mon avis, est la pistache d'Iran, qui est allongée et très verte, et la pistache de Sicile, de Bronte, qui est un petit peu plus ronde et qui a vraiment une saveur très, très particulière, qui a un goût très prononcé. Après, il y a deux autres pistaches que j'achète également. Alors, il faut un peu chercher dans des épiceries, regarder sur des sites internet, parce qu'on trouve, hein, quand on veut et qu'on est très gourmand, on trouve. Il y a deux autres pistaches qui sont très intéressantes. C'est la pistache d'Égine, c'est en Grèce, qui est toute petite, assez foncée, et alors qui a une couleur, qui a une saveur très vive. Et puis une pistache turque, qui est la pistache qu'on trouve dans l'Anatolie, qui est la pistache de Gaziantep. Alors là, franchement, elle est extrêmement parfumée, cette pistache. Et donc avec toutes ces pistaches, on va avoir des utilisations un petit peu différentes. Souvent, la pistache d'Iran, je vais l'utiliser pour les desserts, de la même façon que les pistaches de Bronte. Et puis les autres, je vais les utiliser par exemple pour des farces. Une recette extrêmement simple, il vous reste un petit peu de poulet sur la carcasse du poulet rôti, ou le reste, une tranche ou deux d'un rôti de veau que vous auriez réalisé. Et bien, plutôt que de faire des croquettes toutes simples qu'on va faire avec un petit œuf, un peu de mie de pain ou des herbes aromatiques, et bien moi je vais faire des croquettes en mettant une partie des pistaches grossièrement hachées à l'intérieur de la farce, et puis après Je vais mixer, on va dire, l'équivalent de 2 cuillerées à soupe rase de pistache. Je vais les mixer en une poudre assez fine et je vais un petit peu tapoter mes croquettes de viande avant de les faire cuire. C'est tout simple et c'est extrêmement... Alors, les pistaches en cuisant vont torréfier, vont vraiment donner un goût très délicat qui change tout, en fait, à ces petites boulettes de viande. On peut les utiliser, alors moi je les utilise évidemment énormément dans des farces, par exemple quand je fais une terrine de lapin, par exemple quand je fais des lasagnes, il m'arrive de faire par exemple des lasagnes avec de la ricotta et simplement un petit peu de pistache. Le goût de la pistache est tellement délicat que je le mets souvent avec des aliments qui sont assez doux en goût.
Mais d'ailleurs, tout ça m'amène à une question. Ce qui est drôle là, quand on parle de différentes variétés de pistaches, et puis vous dites que certaines ont un goût particulièrement intense, fin, mais c'est que finalement il y a une bibliothèque de goûts qu'on peut appliquer au monde des pistaches au pluriel, alors que dans l'imaginaire collectif, l'imaginaire commun, un peu plus classiquement, on se dit c'est goût pistache et point. En fait, il y a des goûts pistaches. Et comment on pourrait décrire alors ce goût pistache ? Imaginons à quelqu'un qui n'aurait jamais mangé de pistache. Qu'est-ce que c'est en fait ? Comment on peut décrire autrement que par le mot pistache, le goût de la pistache ?
Alors, il y a beaucoup de rondeur. Il y a un côté un petit peu vif et vert sur certaines assez vif, parce que justement souvent malheureusement on a dégusté des pistaches qui viennent de Californie. Alors j'ai rien contre la Californie, mais ce sont des pistaches qui sont cultivées de façon intensive et qui ont une sorte de goût standardisé, et c'est pour ça d'ailleurs que ces pistaches sont souvent salée et pas très intéressante pour la cuisine. Quand on découvre, par exemple, une pistache iranienne, déjà, quand on va croquer, il y a une texture très particulière qui est à la fois légèrement croquante, mais avec tout de suite quelque chose d'assez rond, un petit peu gras. Et vraiment, le premier goût qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose de vif et très végétal. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de découvrir aussi la pistache quand on la torréfie, parce que ça, c'est encore un autre goût, c'est un goût difficile à définir, extrêmement, moi, j'ai que des mots un peu banals, quoi. Je dirais gourmand, mais c'est loin de ce que je voudrais exprimer.
J'ai l'impression qu'il y a certaines pistaches qui révèlent un goût un peu de noisette, avec quelque chose d'assez beurré aussi.
Oui, alors, surtout quand on les utilise torréfiées et en dessert. Parce que quand on les goûte crues, on a moins ce goût-là, il me semble. Mais dès qu'on, par exemple, si vous avez la chance, j'espère, Émilie, que vous aurez la chance de goûter ce dessert arménien, c'est effectivement ce goût très torréfié d'une noisette qu'on va retrouver. On le retrouve aussi, ce goût très torréfié, très, très particulier, quand on déguste de très bonnes glaces à la pistache. Pas ces glaces avec un vert fluo un peu étrange, hein, une vraie glace à la pistache qui est plutôt avec un goût légèrement brun. Et là, on a vraiment ce goût torréfié de la pistache.
Alors, peut-on faire aussi un petit détour géographique, historique et géographique maintenant, pour comprendre les origines de la pistache et pourquoi il y a donc ces différentes variétés de pistache ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Bah, en fait, la pistache, c'est vraiment un produit qui est originaire du Moyen-Orient. Et en fait, il a voyagé dans les malles des Arabes au fil des différentes conquêtes. Et donc, on va retrouver la pistache en Espagne, on va retrouver la pistache en Italie. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va avoir des productions magnifiques de pistache en Italie et notamment en Sicile. La pistache, évidemment, va se répandre tout autour de la Méditerranée. Alors après, elle ira également en Californie, comme je l'évoquais tout à l'heure, parce que c'est un climat vraiment idéal pour tous les fruits secs, c'est-à-dire les amandes, les pistaches, etc. C'est pas forcément, à mon avis, les meilleurs fruits. Et ensuite, on va retrouver donc cette pistache. Alors, je crois que j'ai eu une discussion l'année dernière avec Olivier Bossan, qui me disait que une initiative était lancée pour planter des pistaches en Provence. Donc j'ai hâte de voir ces premières plantations. J'ai jamais vu, par exemple, en vrai, un pistachier en fleurs, et je pense que de retrouver des pistachiers en Provence, qu'il existait autrefois, sera quand même une grande joie et une grande surprise de pouvoir aller justement dans un verger de pistachiers.
Oui, je suis tombée sur cette information aussi en préparant cette émission. On parlerait du retour de la pistache dans le Vaucluse. La pistache était autrefois un fruit qu'on pouvait trouver en France au XXe siècle, mais ensuite les productions se sont arrêtées. Et aujourd'hui, on considère que le pistachier serait quelque chose d'intéressant pour lutter plutôt contre le réchauffement climatique, puisque donc plutôt que de faire venir toutes ces pistaches de loin, on pourrait au moins en avoir une certaine quantité produite directement en France. Mais j'ignore le goût qu'ont les pistaches du Vaucluse. Je ne sais pas si elles sont aussi bonnes que celles d'Iran ou les Brontë de Sicile.
Ce sera la grande surprise. Je ne sais pas si on va pouvoir les goûter. Je pense qu'il faut quelques années, j'imagine 3-4 années avant de pouvoir avoir une production suffisante, mais je ne vous cache pas que je les attends avec impatience. Après, il y a un produit que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser, c'est la pâte de pistache. Alors, ce n'est pas de la crème de pistache la crème de pistache, ça ressemble plus à une pâte à tartiner, c'est en général assez sucré. Ça m'intéresse moyennement comme produit. En revanche, la pâte de pistache, la plus pure possible en fait, j'aime énormément ce produit parce que c'est de la pistache réduite en pâte et donc très concentrée et qu'on peut mettre dans énormément de préparations. Donc je fabrique moi-même des pâtes du genre de la pasta en fait avec cette pâte de pistache. Donc je vais mélanger de la farine, un petit peu de passe de pistache, de l'œuf, un petit peu d'eau. Et j'adore par exemple faire des feuilles de lasagne ou des spaghettis qui ont le goût de pistache. Parce qu'après, on a besoin de mettre très très peu d'éléments. Alors très souvent, je mets quelques anchois, un brin de basilic. Et ces pâtes sont déjà tellement aromatiques. Elles sont délicieuses également avec de la poutargue. Je pense à cette association qui est absolument délicieuse. Cette pâte de pistache, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'imaginer tout un tas de plats du quotidien, ceux qu'on a l'habitude de réaliser, et en mettant une petite note très méditerranéenne. Je m'explique, si vous savez faire par exemple une purée de pommes de terre ou une purée de céleri, rien ne vous empêche de mettre justement une toute petite quantité de cette pâte de pistache pour l'aromatiser et servir telle ou telle préparation, par exemple avec un agneau confit. Là, on est vraiment dans dans quelque chose de très harmonieux sur le côté oriental et méditerranéen. Alors après, il y a encore deux autres produits fabuleux que j'adore utiliser avec de la pistache. C'est l'huile de pistache. Alors en particulier, j'aime beaucoup celle de Jean-Marc Montégotero qui est installée dans le Beaujolais. Et quand il fait son huile de pistache, qui a un goût magnifique, alors évidemment, c'est un produit extrêmement cher, mais vous en utilisez que quelques gouttes, parce que c'est très concentré, ça a beaucoup de goût. Et quand il prépare son huile de pistache, il récupère le tourteau, il va le déshuiler, et ensuite, il va réussir à faire une sorte de farine de pistache. Est-ce que vous imaginez comme c'est extraordinaire de faire des sablés avec cette farine de pistache ? Si vous avez l'occasion d'aller dans le Beaujolais ou de commander des produits chez ce moulinier, il faut absolument découvrir ces farines de fruits secs et notamment cette farine de pistache totalement extraordinaire.
Donc ça s'apparente à une farine un peu classique mais avec des brisures vertes à l'intérieur ?
Alors c'est pas tellement vert parce que c'est plus, comme je vous le disais, comme la glace. On n'a pas ce côté très vert de la pistache. Ça, c'est vraiment, à mon avis, des colorants qui ont marqué notre imaginaire. C'est beaucoup plus, ça s'apparente plus à une farine de noisette en fait. On a l'impression que, d'ailleurs, si on ne la sent pas, on a l'impression que ça ressemble à de la farine de noisette. C'est beaucoup plus fin que de la poudre hein, de pistache. C'est vraiment une farine très fine qui vous permet de faire des gâteaux, une béchamel, tout ce que vous faites avec de la farine, vous pouvez le faire avec cette farine très particulière. Et j'invite les gens à découvrir certains produits qui ouvrent beaucoup de possibilités, comme par exemple cette fameuse poudre de pistache ou par exemple cette huile qui va permettre, vous faites une petite salade très simple, et le fait d'ajouter ces quelques gouttes d'huile de pistache dans un carpaccio de légumes, ça change vraiment tout. En fait, c'est vraiment une saveur très gourmande qui va donner la note sur votre plat.
C'est intéressant, ces condiments qui sont là dans la cuisine et puis qui très facilement peuvent venir agrémenter, donner un peps différent, un peu plus au relief au plat. Ce sont des vraies aides à la cuisine.
Il y a plein de petites choses. Quand on n'est pas forcément très grand ou un très bon cuisinier, on peut avoir des notions assez simples de cuisine. Mais justement, en jouant sur ces bons produits, bien choisis, on peut tout à fait imaginer des plats tout à fait originaux.
Est-ce que vous pouvez également nous dire quelques mots à propos des vertus pour la santé de la pistache ? C'est aussi un produit valorisé pour cette raison ? On parle de bonnes quantités de protéines.
Comme tous les fruits secs, évidemment, c'est un produit qui apporte beaucoup de bienfaits. D'ailleurs, je ne l'ai pas cité tout à l'heure dans les idées de recettes, mais une des recettes que je fais régulièrement, c'est une recette à base de pistache pour le granola. Et donc là, j'apporte un soin très particulier au mélange de fruits secs. Et la pistache a toujours une grande importance dans ce granola, parce que moi je crois autant aux bienfaits du corps qu'aux bienfaits quand on regarde ce qu'on a dans l'assiette, on va déjà mieux. Et je ne sais pas, vous imaginez commencer le matin avec ce joli granola qui a ces petits éclats verts dans votre assiette avec un fromage blanc et quelques fruits. Eh bien ça, je trouve aussi que ça fait partie des éléments qui sont un bienfait. Il faut se faire plaisir en proposant dans ces différents plats de la journée des plats jolis, des plats harmonieux dans les couleurs. Et évidemment, qui sont un bienfait pour la santé.
Alors, vous nous avez déjà donné beaucoup d'idées de recettes. Est-ce qu'éventuellement, vous en avez une petite dernière que l'on peut suggérer à nos auditeurs et auditrices ?
Alors j'en ai une qui est très simple, c'est d'utiliser, alors surtout avec les pistaches d'Iran, c'est une petite technique qui consiste à clouter des aliments. Alors ça paraît comme ça un peu compliqué, mais pas du tout. En fait, c'est une recette que je faisais dans mon restaurant. J'avais une recette de filets de rouget. Donc les filets côté peau étaient légèrement incisés avec la pointe d'un couteau et je glissais une demi-pistache coupée dans la longueur que je laissais un tout petit peu dépasser. Alors c'est extrêmement joli et en plus c'est très très bon. Sur ce même principe, vous imaginez clouter tout ce qui vous passe sous la main. Vous avez un simple pavé de poisson, un petit pavé de colin, de cabillaud ou autre. En fait, vous pratiquez ces petites incisions. La même chose sur un filet de volaille, sur un petit légume. Et en fait, vous allez cuire ensuite. Alors, si c'est une cuisson très longue, vous allez pré-cuire l'aliment. Je pense notamment à certains légumes comme le céleri rave, par exemple. C'est très, très chouette quand vous faites un gros morceau de céleri rave pré-cuit, vous le faites pré-cuire un petit peu au four, ensuite vous allez lui faire des petites incisions, vous allez clouter tout ça de pistache, vous allez remettre un petit moment au four, et alors non seulement c'est très joli, mais en plus vous allez voir comme la pistache va déjà donner un côté, une petite tournure tout de suite très élégante à votre plat, et en plus ça va apporter un côté très gourmand, très torréfié, c'est vraiment délicieux.
C'est bien ce qu'on appelle contiser quand on incise la peau de...
Alors contiser, c'est quand vraiment on met quelque chose, quand on glisse un aliment. Par exemple, contiser une volaille, c'est soulever un tout petit peu la peau de la volaille pour glisser une feuille ou un beurre aromatisé ou quelque chose. Là, l'idée, c'est, vous imaginez, c'est vraiment une toute petite incision. Et vous appuyez un petit peu, je vais vous donner l'exemple qui va vous faire comprendre, quand vous avez un gigot d'agneau et que vous faites une petite incision pour rentrer la gousse d'ail.
Oui.
Eh bien, c'est exactement ce que je fais avec ma petite pistache, en fait. Je fais un tout petit trou dans un aliment et je vais, en fait, appuyer la pistache pour la faire rentrer dans l'aliment, simplement.
Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est plus simple encore.
Ah, c'est encore plus simple. C'est accessible pour plein de produits et c'est terriblement joli.
Je vous quitte avec un petit « le saviez-vous ». Au Mexique, il y a un dicton
« Quiere el pistache pelado y en la boca »
qui veut dire « vouloir la pistache dans la bouche sans avoir à l'ouvrir », ce qui signifie en quelque sorte « vouloir le beurre et l'argent du beurre ». Voilà, vous avez de quoi briller en société lors d'un prochain apéro. Merci à Sonia Esgulian de nous avoir donné de son temps pour parler de pistache. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Charline Yao. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.